Chapitre 2. La phrase singulière du baron de Féroé et la disparition presque subite du jeune diplomate après l'avoir prononcée firent travailler l'imagination de Guy pendant qu'il retournait au faubourg Saint-Germain, emporté par le trot rapide grimalquin auquel une bise glaciale rendait agréable l'idée de retourner à l'écurie dans son box bien chaud et garni d'une litière nattée, quoique, en bête de bonne race qu'il était, il n'eut pas besoin de ce motif pour soutenir une grande allure. Mais que diable pouvait-il vouloir dire avec ces énigmes solennelles débitées d'un ton de mystagogue, pensait Guy de Malivert, tout en laissant tomber les pièces de son vêtement entre les mains de Jack. C'est cependant un gentleman de la civilisation le moins romanesque que le baron de Féroé. Il est net, poli, et coupant comme un rasoir anglais, et ses manières de la précision la plus exquise sont d'une froideur à faire paraître tiède le vent du pôle. Qu'il ait voulu se jouer de moi, c'est une idée inadmissible. On ne se moque pas de Guy de Malivert, même quand on est brave comme le Suédois au cil blanc. Et d'ailleurs, où serait le sel de cette plaisanterie? Il n'en a pas joui, en tout cas, car il s'est aussitôt dérobé comme un homme qui n'en veut pas dire davantage. Bah, ne songeons plus à ces billevesées. Je verrai le baron demain au club, et sans doute il sera plus explicite. Couchons-nous et tâchons de dormir, que les esprits ou non veillent sur nous. En effet, Guy se coucha, mais le sommeil ne lui vint pas comme il l'espérait, quoiqu'il appelât à son aise les brochures les plus soporifiques et qu'il les lût avec une extrême intensité d'attention machinale. Malgré lui, il écoutait les imperceptibles bruits qui se dégagent encore du plus complet silence. La détente de la sonnerie de sa pendule avant de sonner l'heure ou la demie, un pétillement d'étincelles sous les cendres, le craquement de la boiserie contractée par la chaleur, le son de la goutte d'huile tombant dans la lampe, le souffle de l'air attiré par le foyer et sifflant tout bas sous la porte en dépit des bourrelets, la chute inopinée d'un journal de son lit à terre, le faisaient tressaillir, tellement ses nerfs étaient tendus qu'aurait pu le faire la brusque détonation d'une arme à feu. Son ouïe était surexcitée à ce point qu'il entendait les pulsations de ses artères et les battements de son cœur retentir jusque dans sa gorge. Mais, parmi tous ces murmures confus, il ne put démêler rien qui ressemblât à un soupir. Ses yeux, qu'il fermait de temps à autre dans l'espoir d'y amener le sommeil, se rouvraient bientôt et scrutaient les recoins de la chambre avec une curiosité qui n'était pas sans appréhension. Guy désirait vivement voir quelque chose, et cependant il redoutait que son vœu fût accompli. Parfois, ses prunelles dilatées s'imaginaient apercevoir des formes vagues dans les angles où n'atteignait pas la lueur de la lampe rabattue par un abat-jour vert. Les plis des rideaux prenaient l'aspect de vêtements féminins et semblaient palpiter comme agités par le mouvement d'un corps, mais ce n'était qu'une pure illusion. Des bluettes, des points lumineux, des taches de dessin changeant, des papillons, des filets onduleux et vermiculés dansaient, fourmillaient, s'agrandissaient, se rapetissaient devant son regard fatigué sans qu'il pût discerner rien d'appréciable. Agité plus qu'on ne saurait dire, et sentant, quoi qu'il n'entendît et ne vit rien, la présence de l'inconnu dans sa chambre, il se leva, passa un matelas en poil de chameau qu'il avait rapporté du Caire, jeta deux ou trois bûches sur les braises et s'assit près de la cheminée, dans un grand fauteuil plus commode à l'insomnie qu'un lit défait par une veille fébrile. Près du fauteuil, il vit sur le tapis un papier, jambage et des dévidés de sa propre écriture. L'aspect était plus élégant, plus svelte, plus féminin. Tout en notant ces détails, Guy de Malivert songeait au scarabée d'or d'Edgar Poe et à la sagacité merveilleuse avec laquelle William le Grand parvint à trouver le sens de la lettre en chiffres, où le capitaine Kidd désigne d'une façon énigmatique la place précise de la cachette qui renferme ses trésors. Il aurait bien voulu posséder cette intuition profonde qui suppose d'une chance si hardie et si juste, supplée aux lacunes et renoue la trame des rapports interrompus. Mais si le grand lui-même, en lui adjoignant Auguste Dupin de la lettre volée et de l'assassinat de la rue Morgue, n'aurait pu humainement deviner la puissance secrète qui avait fait dévier la main de Malivert. Cependant Guy finit par s'endormir de ce sommeil pesant et gêné qui succède à une nuit d'insomnie et qu'amène à l'approche de l'aurore. Il se réveilla lorsque Jacques entra pour allumer le feu et aider son maître dans sa première toilette. Guy se sentait frileux et mal à l'aise. Il bâilla, s'étira, se secoua, s'aspergea d'eau froide, et ranimé par ses ablutions toniques, rentra bientôt en pleine possession de lui-même. Le matin aux yeux gris, comme dit Shakespeare, descendant non pas la pente des collines vertes, mais la pente des toits blancs, se glissait dans l'appartement dont Jacques avait ouvert les rideaux et les volets, et redonnait à chaque chose son aspect réel en faisant envoler les chimères nocturnes. Rien ne rassure comme la lumière du soleil, même quand ce n'est qu'un pâle soleil d'hiver, comme celui qui pénétrait à travers les ramages arborescents dont la gelée avait entamé les vitres. Revenu au sentiment habituel de la vie, Malivert s'étonna de la nuit d'agitation qu'il avait passée et se dit « Je ne me savais pas si nerveux ». Puis il rompit la bande des journaux qu'on venait de monter, jeta un coup d'œil au feuilleton, lut les faits divers, reprit le volume d'Évangéline qu'il avait quitté la veille, fuma un cigare, et ses diverses occupations l'ayant mené jusqu'à 11 heures, il se fit habiller, et pour prendre un peu d'exercice, il se donna le but d'aller à pied déjeuner au café Bignon. Une gelée matinale avait durci la neige de la nuit, et en traversant les Tuileries, Malivert prit plaisir à voir les statues mythologiques poudrées à blanc et les grands marronniers tout couverts d'une peluche argentée. Il déjeuna bien et délicatement, en homme qui veut réparer une veille fatigante, et il causa gaiement avec des compagnons joyeux la fine fleur de l'esprit et du scepticisme parisien, et qui avait adopté pour devise la maxime grecque « Souviens-toi de ne pas croire ». Pourtant, aux plaisanteries par trop vives, Guy souriait d'un air un peu contraint. Il ne s'abandonnait pas avec une pleine franchise au paradoxe d'incrédulité et aux fanfaronnades de cynisme. La phrase du baron de Féroé « Les esprits ont l'œil sur vous » lui revenait involontairement et il lui semblait qu'il y avait derrière lui un témoin d'une nature mystérieuse. Il se leva, salua de la main les causeurs et fit quelques tours sur ce boulevard où passe en un jour plus d'esprits qu'il n'en circule en un an dans tout le reste du globe, et le trouvant un peu désert à cause du froid et de l'heure, il tourna machinalement l'angle de la rue de la Chaussée-d'Antin. Il fut bientôt devant la maison de Madame d'Hermercourt. Comme il allait tirer le bouton de la porte, il crut sentir un souffle à son oreille, et dans ce souffle entendre murmurer très bas, et cependant d'une façon distincte, ces mots « N'entrez pas !» Il se retourna vivement et ne vit personne. « Ah, ça, décidément, se dit Malivert, est-ce que je deviens fou? J'ai des hallucinations en plein jour, maintenant? Obéirais-je ou n'obéirais-je pas à cette injonction bizarre ?» Dans le mouvement brusque qu'il avait fait pour se retourner, sa main posée sur le bouton de la sonnette l'avait lâché. Le ressort avait joué et fait vibrer le timbre. La porte s'était ouverte, et le concierge, debout devant sa loge, regardait Malivert hésitant sur le seuil. Malivert entra, quoiqu'il n'en eût guère envie après l'incident extranaturel qui venait de se produire, et il fut reçu par Madame d'Hébercourt dans le petit salon bouton d'or agrémenté de bleu, où elle recevait les visites du matin et dont la nuance déplaisait particulièrement à Guy. « Mais le jaune n'est-il pas le fard des brunes ?» avait répondu la comtesse à Malivert, qui plus d'une fois s'était permis de solliciter le remplacement de cette odieuse tenture. Madame d'Hébercourt était habillée d'une jupe de taffetas noir et d'une veste de couleur voyante, soutachée, brodée, chargée de plus de jets et de passementeries que jamais allant à une feria ou une course de taureaux n'en suspendit à sa basquine. La comtesse, quoique femme du monde, avait le tort de laisser exécuter sur elle quelques-uns de ces costumes impossibles que portent seules les poupées à bouche en cœur et à joues roses des gravures de mode. Contre son habitude, Madame d'Hébercourt avait l'air sérieux. Un nuage de contrariété obscurcissait son front ordinairement serein, et les coins de ses lèvres s'étaient légèrement abaissés. Une de ses bonnes amies venait de la quitter et lui avait demandé, avec la feinte bonhomie des femmes en pareille occasion, à quelle époque avait été fixé son mariage avec Guy de Malivert. La comtesse avait rougi, balbutié, et répondu vaguement qu'il aurait lieu bientôt. Car Guy, que le monde lui donnait pour époux, ne lui avait jamais demandé sa main, ni même fait la déclaration formelle. Ce que Madame d'Hébercourt attribuait à une timidité respectueuse, et aussi peut-être à ce sentiment d'incertitude que tout jeune homme éprouve au moment d'abandonner la libre vie des garçons. Mais elle croyait fermement qu'il se prononcerait un jour ou l'autre, et déjà elle se regardait si bien comme sa femme qu'elle avait arrangé dans sa tête les dispositions particulières que nécessiterait à l'hôtel la présence d'un époux. Voici la chambre, le cabinet d'études, le fumoir de Guy, s'était-elle dit plus d'une fois, en mesurant de l'œil certaines pièces de ses appartements. Quoiqu'elle ne lui plût guère, Guy ne pouvait s'empêcher de convenir que Madame d'Hébercourt était correctement belle, jouissait d'une réputation intacte et possédait une fortune assez considérable. Il s'était laissé aller sans charme, comme tous les gens dont le cœur est vide, à l'habitude de cette maison où on lui faisait meilleur accueil que dans toute autre. Il y revenait parce qu'au bout de quelques jours d'absence, un billet d'une insistance aimable le forçait à reparaître. D'ailleurs, pourquoi n'y serait-il pas allé ? Madame d'Hébercourt recevait d'assez bonne compagnie, et il rencontrait là, certains jours, quelques-uns de ses amis qui lui étaient moins commodes de chercher à travers l'éparpillement de la vie parisienne. « Vous avez l'air un peu souffrant, » dit Malivert à la comtesse. « Est-ce que vous auriez passé une nuit agitée par les diablotins du thé vert ?»« Oh non, j'y mets tant de crème qu'il n'a plus aucune force. » Et puis, je suis le Mithridate du thé. Il n'agit plus sur moi. Ce n'est pas cela. Je suis contrarié. Ah, est-ce que ma visite tombe mal et dérange quelques-uns de vos projets? Alors je me retire. Ce sera comme si, ne vous trouvant pas, j'eusse mis ma carte chez votre concierge. Vous ne me gênez nullement. Et vous savez que je vous vois toujours avec plaisir, répondit la comtesse. Vos visites, je ne devrais peut-être pas le dire, me semblent même assez rares, quoiqu'elles paraissent trop fréquentes à d'autres. N'êtes-vous pas libre, sans parents fâcheux, sans frère importun, sans oncle radoteur, et sans tante chaperon faisant de la tapisserie dans l'embrasure de la fenêtre? La nature obligeante vous a débarrassé de cette broussaille d'êtres désagréables qui se hérissent trop souvent autour d'une jolie femme pour ne vous laisser que leurs héritages. Vous pouvez recevoir qui vous voulez, car vous ne dépendez de personne. « C'est vrai, répliqua madame de Vercourt. Je ne dépends de personne, mais je dépends de tout le monde. Une femme n'est jamais émancipée, fût-elle veuve et en apparence maîtresse de ses actions. Toute une police de surveillants désintéressés l'entoure et s'occupe de ses affaires. Ainsi, mon cher Guy, vous me compromettez. »« Moi, vous compromettre ? » s'écria Malivert avec une sincérité de surprise qui prouvait une modestie bien rare chez un jeune homme de 28 ans, bien tourné, s'habillant chez Renard et faisant venir ses pantalons d'Angleterre. « Pourquoi moi, plutôt que d'Arversac, Bonbon et Janowski et Féroé, qui sont ici fort assidus ?»« Je ne saurais vous le dire, répondit la comtesse. « Peut-être êtes-vous dangereux sans le savoir, ou le monde a-t-il reconnu en vous une puissance que vous ignorez ?» Le nom d'aucun de ces messieurs n'a été prononcé. On trouve tout naturel qu'ils viennent à mes mercredis, me fassent quelques visites de 5 à 6 heures au retour de la promenade du lac, et me saluent dans ma loge au Bouffon et à l'Opéra. Mais ces actions innocentes en elles-mêmes, faites par vous près d'un ce qu'il paraît, une signification terrible. Je suis cependant le garçon le plus uni du monde et personne n'a jamais rien dit sur mon compte. Je n'ai pas un frac bleu comme Werther, ni un pourpoint crevé comme Don Juan. On ne m'a jamais vu jouer de la guitare sous un balcon. Je ne vais pas aux courses en break avec de petites dames aux toilettes tapageuses. Et dans les soirées, je n'agite aucune question de sentiment devant les jolies femmes pour faire briller la pureté et la délicatesse de mon cœur. On ne me voit point me poser comme entre une colonne la main dans mon gilet et regarder silencieusement, d'un air sombre et fatal, une pâle beauté aux longues anglaises ressemblant à la Kitty Belle d'Alfred de Vigny. Ai-je au doigt des vagues en cheveux et sur la poitrine un sachet enfermant des violettes de Parme données par elle? Fouillez mes tiroirs les plus intimes, vous n'y trouverez ni portrait brun ou blond, ni liasse de lettres parfumées nouées d'une faveur ou d'un fermoir en caoutchouc, ni pantoufles brodées, ni masques à barbe de dentelle, ni aucun des brimborions dont les amoureux composent leur musée secret. Franchement, ai-je l'air d'un homme à bonne fortune ? Vous êtes bien modeste, reprit madame d'Amercourt, ou vous vous faites innocent à plaisir. Mais tout le monde, par malheur, n'est pas de votre avis. On trouve à redire aux soins que vous me rendez, quoique pour ma part, je n'y vois aucun mal. Eh bien, fit Malivert, j'espacerai mes visites. Je ne viendrai plus que tous les 15 jours, tous les mois. Et puis je ferai le voyage. Où irai-je, par exemple? Je connais l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Russie. Si j'allais en Grèce, ne pas avoir vu Athènes, l'Acropole et le Parthénon est un crime. On peut prendre la voie de Marseille ou s'embarquer à Trieste sur les bateaux à vapeur du Lloyd autrichien. On touche à Corfou, on voit en passant Ithaque, soli occidenti bene obiacentem, bien exposé au soleil couchant, aujourd'hui comme du temps d'Homère. On pénètre jusqu'au fond du golfe de Lépante, l'on traverse l'isthme. On voit ce qui reste de cette Corinthe où il n'était pas donné à tout le monde d'aller. Un autre bateau vous reprend, et en quelques heures on est au Pirée. Beaumont m'a conté tout cela. Il était parti romantique, engagé. Il a reçu là-bas sa métope sur la tête et ne veut plus entendre parler de cathédrale. C'est un classique rigide maintenant. Il prétend que depuis les Grecs, l'humanité est retombée à l'état barbare et que nos prétendues civilisations ne sont que des variétés de décadence. Madame d'Humbercourt était médiocrement flattée de ce lyrisme géographique et elle trouvait dans Guy de Malivert une docilité à ne pas la compromettre un peu trop gênante. Ce soin de sa réputation poussé jusqu'à la fuite ne la satisfaisait pas. « Mais qui vous demande d'aller en Grèce ?» dit-elle à Guy. « D'ailleurs, ajouta-t-elle avec une légère rougeur et un imperceptible tremblement de voix, « n'y aurait-il pas un moyen plus simple de faire taire ces médisances que de quitter ses amis et de se risquer dans un pays qui n'est guère sûr, s'il faut en croire le roi des montagnes de M. Edmond Abou ?» Craignant d'avoir dit une phrase trop claire, la comtesse sentit un nuage rose plus vif que le premier lui couvrir le visage et le col. Sa respiration un peu haute faisait briller et bruire sur son sein les canetilles de jet de sa veste. Puis reprenant courage, elle leva vers Malivert des yeux qu'une lueur d'émotion rendait vraiment beaux. Madame d'Humbercourt aimait Guy, son trop silencieux adorateur, autant qu'une femme de sa nature pouvait aimer. La manière à la fois négligée et correcte dont il mettait sa cravate lui plaisait. Et avec cette profonde logique féminine dont les philosophes les plus subtils ont peine à suivre les déductions, elle avait inféré de ce nœud que Malivert possédait toutes les qualités requises pour faire un excellent mari. Seulement, ce futur mari marchait vers l'autel d'un pas bien lent et ne semblait guère pressé d'allumer les flambeaux de l'hymen. Guy comprenait bien ce que voulait dire Madame d'Humbercourt, mais plus que jamais, il redoutait de s'engager par une phrase imprudente. Il répondit « Sans doute, oui, sans doute, mais le voyage coupe court à tout, et au retour, on voit ce qu'il y a de mieux à faire. » À cette réponse si vague et si froide, la comtesse eut un mouvement de dépit et se mordit les lèvres. Guy, fort embarrassé, gardait le silence, et la situation se tendait lorsque le valet de chambre vint y faire une diversion utile en annonçant « Monsieur le baron de Ferroy !» En voyant entrer le baron suédois, Malivert ne put s'empêcher de pousser un léger soupir de satisfaction. Jamais visite n'était venue plus à propos. Aussi leva-t-il vers M. de Ferroy un regard empreint de reconnaissance. Guy, sans cette interruption opportune, allait se trouver dans un singulier embarras. Il lui fallait répondre à Mme d'Humbercourt d'une façon catégorique, et rien ne lui répugnait plus que ses explications brutalement formelles. Il aimait mieux tenir que promettre, et même pour les choses indifférentes, il prenait garde de s'engager. Le regard que Madame d'Humbercourt jeta sur le baron de Ferroé n'était pas empreint de la même bienveillance que celui de Malivert, et si l'habitude du monde n'apprenait à dissimuler ce qu'on éprouve, on eût pu lire dans ce coup d'œil rapide un mélange de reproches, d'impatience et de colère. L'apparition de ce personnage malencontreux avait fait envoler une occasion qui ne remenait pas de longtemps et qu'il coûtait à Madame d'Humbercourt de provoquer. Car à coup sûr, Guy ne la chercherait pas et même l'éviterait avec soin. Quoique, dans des cas nettement définis, Guy eût montré de la décision et du courage, il avait une certaine appréhension de ce qui pouvait fixer sa vie d'une manière ou d'une autre. Son intelligence lui ouvrait toutes les carrières, mais il n'en avait voulu suivre aucune. La route choisie l'eût peut-être détournée de la vraie voie. On ne lui connaissait pas d'attachement, excepté l'habitude sans charme qui le ramenait chez la comtesse plus souvent qu'ailleurs, ce qui faisait supposer entre eux des projets de mariage. Toute espèce de lien ou d'obligation lui inspirait de la défiance, et l'on eût dit que, poussé par un instinct secret, il tâchait de se conserver libre pour quelque événement ultérieur. Après l'échange des premières formules, vagues accords par lesquels on prélude à la conversation, comme on interroge le clavier avant d'attaquer le morceau, le baron de Féroé entama, par une de ces transitions qui vous amènent en deux phrases de la chute de Ninive au triomphe du gladiateur, une dissertation esthétique et transcendantale sur les plus abstrus opéras de Wagner, le vaisseau fantôme, Lohengrin et Tristan et Iseut. Madame de Mercourt, bien qu'elle fût d'une assez grande force au piano, et l'une des élèves les mieux exercées de Herz, n'entendait rien à la musique, et surtout à une musique aussi profonde, aussi mystérieuse, aussi compliquée que celle du maître dont le Tannhauser a soulevé chez nous de si violents orages. Aux analyses enthousiastes du baron, elle répondait de temps à autre, tout en ajoutant quelques points à une bande de tapisserie qu'elle avait prise dans une corbeille, placée près du fauteuil, où elle se tenait d'habitude non loin de la cheminée, par ces objections banales qu'on ne manque pas de faire à toute musique nouvelle et qu'on adressait à Rossini tout aussi bien qu'à Wagner, tels que manque de rythme, absence de mélodie, obscurité, abus des cuivres, complications inextricables de l'orchestre, tapage assourdissant et enfin possibilité matérielle de l'exécution. Voilà une dissertation bien savante pour moi, qui ne suis en musique qu'un pauvre ignorant ému par ce qui me semble beau, admirant Beethoven et même Verdi, quoique cela ne soit pas bien porté, maintenant qu'il faut être, comme autant des gluckistes et des piccinistes, pour le coin de la reine ou pour le coin du roi. Je vous laisse aux prises, ne pouvant apporter aucune lumière à la discussion, est capable tout au plus de pousser un hum-hum comme le minime prix pour arbitre d'une discussion philosophique par Molière et Chapelle. Ayant dit ces mots, Guy de Malivert se leva pour prendre congé. Madame de Mercourt, dont il secoua la main à l'anglaise, arrêta sur lui un regard qui voulait dire « Restez !» aussi clairement que la réserve d'une femme du monde le permettait. Et ce regard suivit obliquement Malivert jusqu'à la porte, avec une nuance de tristesse qui l'eût touché sans doute s'il eût pu l'apercevoir. Mais son attention était occupée par la physionomie impérieusement tranquille du Suédois qui semblait dire « Ne vous exposez pas de nouveau au péril d'où je vous ai tiré !» Quand il fut dans la cohue, il pensa, non sans une sorte d'effroi, à l'avertissement surnaturel qu'il avait reçu avant d'entrer chez Madame d'Hammercourt et à la visite du baron de Féroé qui coïncidait d'une façon si singulière avec sa désobéissance à cet avis mystérieux. Le baron semblait lui avoir été envoyé comme soutien par les puissances occultes dont il sentait vaguement la présence autour de lui. Guy de Malivert, sans être systématiquement incrédule ni sceptique, n'avait cependant pas la foi facile, et on ne l'avait jamais vu donner dans les rêveries des magnétiseurs, des tables tournantes et des esprits frappeurs. Il sentait même une sorte de répulsion pour ces expériences où l'on veut mettre le merveilleux en coupe réglée, et il avait refusé de voir le célèbre Home dont un instant s'occupa tout Paris. La veille encore, il vivait en garçon insouciant, de belle humeur, assez heureux en somme d'être au monde, où il ne faisait pas trop mauvaise figure, renfermé dans le cercle des choses visibles et ne s'inquiétant pas si la planète entraînait avec elle dans sa ronde autour du soleil une atmosphère animée ou non d'un peuple d'êtres invisibles et impalpables. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'en convenir, les conditions de sa vie étaient changées. Un élément nouveau, sans qu'il l'eût appelé, cherchait à s'introduire dans son existence jusque-là si paisible et dont il avait banni avec soin tous les sujets probables de trouble. C'était peu de chose encore, un soupir faible comme un gémissement de harpe éolienne, une substitution de pensée dans une lettre machinalement écrite, trois mots soufflés à l'oreille, la rencontre d'un baron swedenborgiste à l'air solennel et fatidique, mais il était évident que l'esprit tournait autour de lui. Quaerens quem deoret, comme dit la Bible dans son éternelle sagesse, cherchant quelqu'un à dévorer. Tout en rêvassant de la sorte, Guy de Malivert était arrivé au rond-point des Champs-Élysées, sans avoir eu l'intention d'aller de ce côté-là plutôt que d'un autre. Son corps l'avait porté en ce sens, et il l'avait laissé faire. Il y avait peu de monde, quelques rares obstinés qui, par hygiène, font de l'exercice en toute saison et pratiquent des trous dans les glaces des rivières pour s'y baigner, revenaient du bois, le nez bleu, les joues violettes, montés sur des chevaux garantis par des genouillères. Deux ou trois d'entre eux firent de la main un signe amical à Guy, qui reçut même, quoiqu'il fût à pied, un gracieux sourire d'une des célébrités du monde interlope, étalant en voiture, découverte, le faste de fourrure conquis sur la Russie. Comme je suis à moi tout seul le public, on se dispute mon suffrage, pensa Malivert. Cora ne m'aurait pas adressé un pareil salut en été. Mais que diable suis-je venu faire ici? C'est pas la saison de dîner sous la tonnelle, au Moulin Rouge avec Marco ou la baronne d'Ange. Et d'ailleurs, je suis en disposition peu folâtre. Pourtant, il est l'heure de songer, comme dit Rabelais, à la réparation de dessous le nez. Voilà le soleil qui se couche derrière l'arc de l'étoile. En effet, l'arc de cette porte immense qui s'ouvre sur le ciel encadrait un tableau de nuages bizarrement amoncelés et bordés sur le contour de leur silhouette d'une écume de lumière. Le vent du soir imprimait à ces formes flottantes un léger tremblement qui leur prêtait une sorte de vie. Et comme dans ces illustrations de Gustave Doré, où les rêveries qui entrent le cerveau du personnage se reflètent sur les nuées, montrant aux Juifs errants le Christ gravissant le calvaire, et à Don Quichotte les chevaliers errants en lutte avec des enchanteurs, on eût pu aisément trouver des figures et des groupes dans cet amas de vapeurs sombres traversé de rayons. Malivert crut y démêler des anges à grandes ailes de feu, planant sur une fourmilière d'êtres indistincts qui s'agitaient sur un banc de nuages noirs, semblable à un promontoire baigné d'ombre au milieu d'une mer phosphorescente. Parfois, une des figures inférieures se détachait de la foule et montait vers les régions éclairées, traversant le disque rouge du soleil. Arrivée là, elle volait un instant à côté d'un des anges et se fondait en lumière. Sans doute il fallait que l'imagination achevât cette ébauche heurtée et changeante. Et d'un tableau de nuages, on peut dire, comme Hamlet à Polonius, « C'est un chameau, à moins que cependant que ce soit une baleine. » Et dans les deux cas, il est permis de répondre par l'affirmatif, sans être pour cela un courtisan imbécile. La nuit qui descendait éteignit cette fantasmagorie vaporeuse. Le gaz s'allumant au bout des lampadaires traça bientôt, de la place de la Concorde à l'arc de l'Étoile, ces deux cordons de feu d'un effet magique, étonnement des étrangers qui entrent le soir dans Paris par cette avenue triomphale. Et Guy héla un coupé de remise en maraude, par lequel il se fit mener à la rue de Choiseul, où se trouve le club dont il faisait partie. Laissant son paletot aux mains des domestiques enlivrés debout dans l'antichambre, Il feuilleta le registre sur lequel s'inscrivent les dîneurs du jour et vit avec satisfaction que le nom du baron de Ferroé y était écrit. Il traça le sien en dessous, puis traversa la salle du billard, où le garçon pointeur attendait mélancoliquement que quelques-uns de ces messieurs eussent le caprice de venir faire une partie, et plusieurs autres salles hautes, vastes, meublées avec toutes les recherches du confort moderne, entretenues dans une température égale par un puissant calorifère, ce qui n'empêchait pas d'énormes bûches de s'écrouler en braise sur les chenets monumentaux des grandes cheminées. À peine 4 ou 5 membres du cercle flânaient sur les divans ou, accoudés sur la grande table verte du salon de lecture, parcouraient distraitement les journaux et les revues, rangés dans un ordre méthodique, sans cesse troublé et rétabli. 2 ou 3 expédiaient leurs correspondances d'amour et d'affaires sur le papier du club. L'heure du dîner approchait et les convives causaient entre eux en attendant que le maître d'hôtel annonçât qu'on était servi. Guy commençait à craindre que le baron de Ferroé ne vînt pas, mais comme on passait dans la salle à manger, il arriva et prit place à côté de monsieur de Malivert. Le dîner, servi avec un grand luxe de cristaux, d'argenterie et de réchauds d'argent, était assez délicat, et chacun l'arrosait à sa manière, celui-ci de vin de Bordeaux, celui-là de vin de Champagne, tel autre de Pale Ale, suivant son caprice ou son habitude. Quelques-uns d'un goût assez anglaisé demandaient un verre de sherry ou de porto, que cérémonieusement, sur des plateaux guillochés, de grands laquais en culotte courte apportaient, et chacun suivait sa fantaisie, sans s'inquiéter de son voisin, car au club tout le monde est chez soi. Contre son ordinaire, Guy faisait médiocrement honneur au dîner. La moitié des mets restait sur son assiette, et la bouteille de Château Margaux placée devant lui ne se vidait que lentement. « Il n'y aurait pas besoin, dit le baron de Ferroé, de vous adresser le reproche que Georges Blanc fit un jour à Swedenborg. Tu manges trop. Vous êtes ce soir d'une sobriété exemplaire, et l'on croirait que vous essayez de vous spiritualiser par le jeûne. Oh, je ne sais si quelques bouchées de plus ou de moins me dégageraient l'âme de la matière, répondit Guy, et rendraient plus diaphanes les voiles qui séparent les choses invisibles des choses visibles. Mais je ne me sens pas très en appétit. Certaines circonstances que vous paraissez ne pas ignorer m'ont, je l'avoue, un peu étonné depuis hier et jeté dans une préoccupation qui ne m'est pas habituelle. Dans mon état normal, je ne suis pas distrait à table, mais aujourd'hui, d'autres pensées me dominent malgré moi. Avez-vous des projets pour la soirée, baron ? Si vous n'avez rien d'utile ou d'agréable à faire, je vous proposerai, après le café, de fumer quelques cigares de compagnie sur le divan du petit salon de musique où nous ne serons pas troublés, à moins qu'il ne prenne fantaisie à quelqu'un de ces messieurs de tracasser le piano, ce qui est peu probable. Nos musiciens sont tous absents ce soir et occupés à voir la répétition générale du nouvel opéra. Le baron de Ferroé acquiesça de la façon la plus polie à la proposition de Malivert, et il répondit gracieusement qu'il ne pouvait y avoir une meilleure manière d'employer le temps. Les deux gentlemen s'établirent donc sur le divan et s'occupèrent d'abord à tirer des bouffées régulières d'excellents cigares de la Vuelta de Abajo, chacun rêvant de son côté à l'entretien nécessairement bizarre, qui ne devait pas tarder à s'engager. Après quelques observations sur la qualité du tabac qu'il fumait, sur la préférence qu'on doit accorder à la robe brune, sur la robe blonde, le baron suédois entama lui-même le sujet que Malivert brûla d'aborder. J'ai d'abord quelques excuses à vous faire de la vie énigmatique que je me suis permis de vous donner l'autre soir chez Madame d'Abercourt. Vous ne m'avez pas fait de confidence, et c'est une sorte d'indiscrétion à moi d'être entré dans votre pensée sans que vous me l'ayez ouverte. Je ne l'aurais pas fait, car il n'est pas dans ma nature de quitter mon rôle d'homme du monde pour celui de magicien, si je ne vous eusse porté un vif intérêt, et si je n'avais reconnu à des signes perceptibles pour les seuls adeptes que vous avez reçus récemment la visite d'un esprit, ou tout au moins que le monde invisible cherchait à se mettre en communication avec vous. Guy affirma que le baron ne l'avait choqué en rien, et que dans une situation si nouvelle, il était au contraire fort heureux d'avoir rencontré un guide qui semblait si au courant des choses surnaturelles et dont le caractère sérieux lui était parfaitement connu. « Vous sentez bien, » répondit le baron avec une légère inclination de tête en manière de remerciement, « que je ne me départ pas aisément de cette réserve. Mais vous en avez peut-être vu assez pour ne pas croire que tout finit ou s'arrête nos sens, et je ne crains pas désormais, si notre entretien se porte vers ces sujets mystérieux, que vous me preniez pour un visionnaire ou un illuminé. Ma position me met au-dessus du soupçon de charlatanisme, et d'ailleurs je me livre au monde que ma vie extérieure. Je ne vous demande pas ce qui vous est arrivé, mais je vois qu'on s'occupe de vous hors de la sphère où s'enferme habituellement la vie commune. Oui, dit Guy de Malivert, quelque chose d'indéfinissable flotte autour de moi, et je ne pense pas commettre une indiscrétion envers les esprits avec qui vous êtes au mieux, en vous racontant en détail ce que vous avez pressenti avec votre intuition extra-humaine. Et Guy fit part au baron de Féroé des événements qui avaient signalé pour lui la soirée précédente. Le baron suédois l'écouta en filant le bout de sa moustache d'or pâle avec une extrême attention, mais sans manifester la moindre surprise. Il garda pendant un instant le silence et parut profondément réfléchir. Puis, comme si cette phrase résumait tout un enchaînement de pensées intérieures, il dit tout d'un coup à Guy « Monsieur de Malivert, est-ce que jamais une jeune fille est morte d'amour pour vous ?»«
Ni jeune fille, ni jeune femme, que je sache, du moins, » répondit Malivert. « Je n'ai pas la fatuité de penser que je puisse inspirer de pareils désespoirs. Mes amours, si l'on peut appeler ainsi le baiser distrait de deux fantaisies, ont été très paisibles, très peu romantiques, aussi facilement dénoués que noués, et pour éviter les scènes pathétiques que j'ai en horreur, je me suis toujours arrangé de façon à être trahi et quitté. Mon amour-propre se faisait volontiers ce petit sacrifice à mon repos. Ainsi, je ne crois pas avoir laissé derrière moi dans la vie beaucoup d'arianes inconsolables. Dans ces historiennes de mythologie parisienne, l'arrivée de Bacchus précédait régulièrement le départ de Thésée. D'ailleurs, je dois l'avouer, dussé-je vous donner une idée médiocre de mes facultés affectives, je n'ai jamais senti pour personne cette passion intense, exclusive et perdue dont tout le monde parle sans l'avoir éprouvée peut-être. Aucun être ne m'a inspiré l'idée de m'attacher à lui par un lien indissoluble, ne m'a fait rêver ses projets d'existence doubles, confondus en une seule, et ses fuites vers un de ces paradis d'azur, de lumière et de fraîcheur que l'amour, dit-on, sait construire même dans une chaumière ou dans un grenier. Cela ne veut pas dire, mon cher Guy, que vous ne soyez capable de passion. Il y a bien des sortes d'amour. Et sans doute vous vous étiez réservé là où se décide le sort des âmes à de plus hautes destinées. Mais il en est encore, le consentement de la volonté donne seule prise aux esprits sur nous. Vous êtes sur le seuil d'un monde illimité, profond, mystérieux, plein d'illusions et de ténèbres où se combattent des influences bonnes et mauvaises qu'il faut savoir discerner. On y voit des merveilles et des épouvantements à troubler la raison humaine. Nul ne revient du fond de cet abîme sans en garder sur le front une pâleur qui ne s'efface pas. L'œil charnel ne contemple pas impunément ce qui est réservé à l'œil de l'âme. Ces voyages hors de notre sphère causent d'inexprimables lassitudes et inspirent en même temps des nostalgies désespérées. Arrêtez-vous sur cette limite redoutable. Ne passez pas d'un monde dans l'autre et ne répondez pas à l'appel qui cherche à vous attirer hors de la vie sensible. Les évocateurs sont en sûreté dans le cercle qu'ils tracent autour d'eux et que les esprits ne peuvent franchir. Que la réalité soit pour vous ce cercle, n'en sortez pas, car alors votre pouvoir cesse. Vous voyez que pour un hiérophante, je ne pousse guère au prosélytisme. Mais ai-je donc à craindre, dit Malivert, des aventures périlleuses dans ce monde invisible qui nous entoure et dont la présence ne se révèle qu'à un petit nombre de privilégiés ? Non, répondit le baron de Ferroé, rien d'appréciable pour l'œil humain ne vous en arrivera, mais votre âme peut rester profondément et à jamais troublée. Et l'esprit qui me fait l'honneur de s'occuper de moi est donc de nature dangereuse ? C'est un esprit de sympathie, de bienveillance et d'amour. Je l'ai rencontré dans un milieu de lumière, mais le ciel a son vertige comme le gouffre. Songez à l'histoire du berger amoureux d'une étoile. Cependant, répliqua Malivert, la phrase que vous m'avez dite chez Madame d'Humbercourt semblait m'avertir de me garder de tout engagement terrestre. Je le devais, répondit le baron de Ferroé. Il fallait vous prévenir de rester libre dans le cas où vous auriez répondu aux manifestations de l'esprit. Mais puisque vous ne l'avez pas fait encore, remarquez que vous vous appartenez toujours. Peut-être feriez-vous mieux de rester ainsi et de continuer votre vie habituelle. Et d'épouser Madame d'Humbercourt, par exemple, répondit Guy de Malivert avec un sourire ironique. « Et pourquoi pas ?» dit le baron de Ferroé. « Elle est jeune, elle est belle, elle vous aime, et j'ai vu dans vos yeux un véritable chagrin de votre refus détourné. Il ne serait pas impossible qu'il lui vînt une âme. Oh, c'est un risque que je ne veux pas courir. Ne vous efforcez pas tant, cher baron, par une sollicitude que je comprends de me rattacher à l'existence vulgaire. J'en suis plus dégagé qu'on ne pourrait le croire d'abord. Si j'ai réglé ma vie physique d'une façon agréable et commode, cela ne prouve de ma part aucune sensualité. Le bien-être m'est au fond parfaitement indifférent. Si j'ai trouvé plus convenable de paraître insouciant et joyeux que d'affecter des mélancolies romantiques de mauvais goût, il ne s'ensuit pas que le monde tel qu'il est me charme et me contente. Il est vrai, je ne parle pas dans les salons, devant un cercle de femmes prétentieuses, du cœur, de la passion, de l'idéal, mais j'ai gardé mon âme fière et pure, libre de tout culte vulgaire, dans l'attente du Dieu inconnu. Pendant que Malivert parlait ainsi avec plus de feu que les gens du monde n'en mettent à ce qu'ils disent, les yeux du baron de Ferroé étincelaient et sa physionomie prenait cette expression d'enthousiasme qu'il cachait ordinairement sous un masque d'indifférence glaciale. Il était satisfait de voir Guy résister à la tentation prosaïque et se maintenir dans la volonté spirituelle. Puisque vous êtes décidé, mon cher Guy, retournez chez vous. Sans doute vous recevrez quelques communications nouvelles. Moi, je reste. J'ai gagné hier 100 louis à Daversac. Je lui dois une revanche. La répétition de l'opéra doit être finie, car j'entends nos amis qui reviennent en fredonnant de leur voix la plus fausse les motifs qu'ils n'ont pas retenus. Allez, sauvez-vous. Ce charivari vous désaccorderait l'âme. Guy donna une poignée de main au baron et monta dans sa voiture qui l'attendait à la porte du club.